Formation continue avec maintenant le journal des Amériques et d'Haïti présenté par Adrien Delgrange. Adrien, bonjour.
Bonne journée à vous Gilles Moreau, bonjour à tous. De Rio à Bogota, de Port-au-Prince à Paris. Bienvenue à tous dans ce journal des Amériques.
RFI.
À la une de ce 9 juillet, une recrudescence d'assassinats en Colombie. Deux ans après les accords de paix signés avec la guérilla des FARC, plus de 700 responsables locaux ont été tués. Reportage à suivre de Marie-Ève de Teuf. Nous évoquerons aussi les négociations entre l'opposition et le gouvernement vénézuélien qui se déroulent sur l'île de la Barbade. Ni Juan Guaido, ni Nicolas Maduro ne semble prêt à faire des concessions pour sortir le pays de la crise. Nous venons par ailleurs d'apprendre le décès de l'ancien président argentin Fernando de la Rúa, mort à 81 ans à Buenos Aires. Pour parler de l'actualité haïtienne, nous serons en ligne de Port-au-Prince avec Godson Pierre, journaliste pour Alter Press. Et puis enfin, dans ce journal, un dernier adieu à João Gilberto. Retour en Bossa Nova sur les funérailles hier du chanteur à Rio.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.
C'est le plus grand défi auquel est confrontée actuellement la Colombie. Parole hier à Bogota de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la paix, Eamon Gilmore. Le défi, la fin des assassinats. Dans ce pays d'environ 50 millions d'habitants, les assassinats continuent. En effet, deux ans après que la guérilla des FARC ait signé la paix et déposé les armes, plus de 700 leaders locaux ont été tués selon l'association Indepaz. Reportage en Colombie. Marie-Ève de Teuf.
C'est un massacre au compte-goutte. Il a fallu un cri pour que la Colombie en prenne conscience, le cri d'un enfant de 9 ans près du corps de sa mère assassiné sous ses yeux. Elle s'appelait Maria del Pilar Hurtado, elle vivait dans le nord du pays à Tierra Alta. La scène filmée par un voisin est devenue virale sur les réseaux sociaux. L'enfant frappe le sol, les murs, personne ne le prend dans ses bras. La peur règne à Tierra Alta. Maria del Pilar se battait pour obtenir une terre. Tous les jours ou presque dans les régions retirées de Colombie, des hommes et des femmes engagés pour défendre leurs droits et ceux de leur communauté sont assassinés. Plus de 130 anciens guérilleros aujourd'hui démobilisés ont également été tués depuis la signature de l'accord de paix avec les FARC. Explication de la ministre de l'Intérieur, Nancy Gutiérrez.
Quelle est la réalité des assassinats et des menaces qui visent certains secteurs de la population et qui se concentrent dans les endroits où il y a des disputes territoriales pour le contrôle des économies illégales, notamment le narcotrafic.
Personne ne conteste cette vérité. La Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne. Le trafic de drogue et maintenant celui de l'or illégal sont des facteurs de violence. Mais la ministre semble ignorer d'autres réalités. Celle des paysans qui luttent pour récupérer leurs terres, celle des écologistes qui se battent pour empêcher l'implantation des grands projets agro-industriels ou miniers, celle des petits élus locaux qui tentent de dénoncer la corruption. Tous ces gens sont des victimes potentielles des tueurs à gages ou des milices armées. Constanza Arango est religieuse, elle vit en contact avec ses communautés rurales. Vendredi, elle organisait une messe dans la rue à Bogota en souvenir de tous les leaders assassinés.
Le problème principal semble être les terres et aussi la défense de l'environnement. Nous ne pouvons pas faire la paix sans travailler pour une paix agraire, sans penser aux campagnes.
L'analyste Luis Eduardo Celis assiste à la célébration.
Nous avions l'illusion de la paix parce qu'il y avait cet accord signé avec la guérilla des FARC, une guérilla intransigeante et puissante qui a fait beaucoup de mal au pays. Mais maintenant que les FARC ne sont plus là, elles sont devenues un parti politique et c'est un grand progrès, maintenant les vrais problèmes se voient. Ici, il y a des machines de mort qui opèrent tous les jours sans que l'État n'agisse.
Ce drame des assassinats ciblés ne date pas d'hier. Le directeur d'Indepaz, une organisation qui travaille pour la paix, Camilo González, le confirme.
À l'époque, un mort de plus ou de moins, c'était normal. Le conflit armé faisait 5000 morts par an. Mais quand il y a un accord de paix signé, alors là, un seul mort fait mal.
Les gouvernements successifs, celui du président Juan Manuel Santos qui a signé la paix avec les FARC et celui du président Iván Duque qui critique cet accord de paix, ont-ils leur part de responsabilité?
Le gouvernement de Santos a tardé à mettre en place une stratégie pour déployer l'État dans les territoires abandonnés par les FARC. Résultat, les mafias sont arrivées les premières. Et le gouvernement Duque tarde à mettre en œuvre l'accord de paix lui-même. L'un a été mou et l'autre est contre l'accord de paix.
Rien ne permet d'espérer à court terme que cesse le massacre.
Marie-Ève de Teuf à Bogota pour RFI. Place à la revue de presse des Amériques à présent. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et toujours dans l'actualité colombienne, Romain, ces chiffres publiés par la presse nationale qui font état d'une forte augmentation des opérations militaires et du nombre de victimes depuis le début de l'année.
Oui, une information qui fait la une d'El Tiempo. Selon ce quotidien, durant le premier semestre 2019, les affrontements entre forces de l'ordre et groupes armés illégaux ont augmenté de 82% par rapport au premier semestre 2018. El Tiempo comptabilise 62 affrontements directs, le chiffre le plus élevé depuis 5 ans. 34% de ces combats opposaient les militaires à l'ELN, l'armée de libération nationale, 27% à des organisations criminelles et 21% à des dissidents des FARC. Le nombre de victimes lors de ces affrontements a également augmenté de 87%, des chiffres qui démontrent le virage entrepris par le gouvernement d'Ivan Duque qui plaide pour une politique sécuritaire plus drastique.
À la une de votre revue de presse également, Romain, le Venezuela, où la reprise du dialogue, ou en tout cas de la médiation entre l'opposition vénézuélienne et le gouvernement de Nicolas Maduro, c'était ce lundi dans les Caraïbes, sur l'île de la Barbade.
Oui, alors si dimanche, lors de l'annonce de la reprise de ces rencontres, ni les autorités ni l'opposition n'avaient précisé de date, ce mardi matin, Ultimas Noticias nous apprend que les deux parties se sont vues hier lundi, un dialogue qui se fait toujours avec la médiation de la Norvège, précise le quotidien. Selon Nicolas Maduro, un agenda de 6 points a été établi, mais il n'a pas précisé lesquels, selon le journal Dos Mil Uno, un agenda qui devrait permettre d'obtenir, je cite, « des accords partiels qui bénéficieront à tous les Vénézuéliens si les gringos, les Américains, ne s'immiscent pas dans ces discussions ». Nicolas Maduro qui s'est dit optimiste lors d'une déclaration diffusée sur la chaîne publique VTV.
Alors, que dit l'opposition ?
Je ne crois pas en la bonne volonté de ce régime ni d'aucun dictateur. Voilà en résumé la pensée de Juan Guaido, le président par intérim, qui s'est livré hier lors d'une interview avec la chaîne de Miami EVTV. Selon La Patilla qui rapporte ses propos, pour Juan Guaido, c'est ces discussions ne sont qu'un mécanisme de plus dans une stratégie globale qui vise à mettre fin à l'usurpation du pouvoir. Juan Guaido se méfie du régime de Nicolas Maduro et rappelle qu'aucun accord n'avait été scellé lors de précédentes discussions organisées en République dominicaine.
Alors que pensent les Vénézuéliens de ces discussions ? Notre correspondant à Caracas, Benjamin Delisle, a été à leur rencontre et leur a posé la question.
En plus des nuages gris de la saison des pluies, l'impasse politique démoralise presque tout le monde dans les rues de la capitale. Carlos dit être un opposant modéré. Contrairement aux plus radicaux, il ne veut pas d'une intervention militaire étrangère pour faire partir Nicolas Maduro. Mais il a du mal à croire au succès des négociations.
Quand il y a en jeu des intérêts russes, nord-américains, chinois ou encore cubains, je vois mal comment une discussion en Norvège ou à Barbade va résoudre nos problèmes. Mais bon, il n'y a pas d'autre option actuellement sur la table.
Étonnamment, Oscar, un chaviste convaincu, est d'accord. Mais selon lui, le problème ne vient ni des autorités, ni de leurs alliés russes, chinois ou cubains.
Le gouvernement n'est pas opposé au dialogue, au contraire. Mais il va s'agir d'une conversation dont l'issue a déjà été définie par les États-Unis. Car ce sont eux qui contrôlent tout.
Vanessa esquisse un sourire fatigué lorsqu'elle entend les discours politiques des uns et des autres. Pour elle, le problème est plus simple. Ni l'opposition, ni le gouvernement ne sont prêts pour des négociations.
Ils ne se soucient que de leurs intérêts politiques. Ce qu'ils veulent l'un comme l'autre, c'est le pouvoir. Donc rien ne change et le peuple continue de souffrir. Comment voulez-vous qu'ils se mettent d'accord ?
Au moins ces négociations montrent qu'il y a une chose qui met tout le monde d'accord au Venezuela, l'impossibilité de dialoguer. Benjamin Delisle, Caracas, RFI.
La suite de votre revue de presse, Romain Maresquier, à présent au Mexique, où après des jours de tension et de grève au sein de la police fédérale, eh bien finalement, un accord a été trouvé avec les représentants du gouvernement.
Oui, une information qui fait la une du quotidien El Universal. Depuis maintenant près d'une semaine, de nombreux policiers fédéraux étaient en grève ou manifestaient pour dénoncer la fin de cette institution créée en 2009. Comme le rappelle le quotidien, ces policiers fédéraux vont être reversés dans la garde nationale, fraîchement créée créée par le président López Obrador. Il craignait des licenciements, des baisses de salaire et le fait de passer sous hiérarchie militaire. Hier donc, un accord en 13 points a été trouvé qui garantit les conditions de travail de ces agents et qui devrait leur permettre de choisir une autre institution que la garde nationale. Une poignée de policiers fédéraux continue tout de même d'occuper le siège de la police fédérale à Mexico, précise El Universal, des policiers qui réclament le règlement des jours de grève.
Au Brésil à présent, où se sont déroulées hier à Rio les funérailles de João Gilberto, le chanteur et véritable icône dans son pays, mais aussi dans le monde entier. Il est décédé ce week-end à l'âge de 88 ans.
C'est en chantant l'un de ses plus grands succès, hein, Chega de Saudade, le morceau qui a lancé la bossa nova, que la famille et des centaines d'admirateurs ont rendu un dernier hommage à João Gilberto. La veillée funèbre s'est déroulée au prestigieux théâtre municipal de Rio de Janeiro. C'était très émouvant, écrit au Globo. Le cercueil à semi-ouvert d'où émergeait le visage du chanteur a été placé devant les escaliers du hall d'entrée de ce théâtre. Celui qui détestait le moindre bruit parasite pendant ses concerts minimalistes et intimes a eu le droit à une cérémonie bruyante mais joyeuse, ajoute au Globo. Les proches et les inconnus rassemblés au théâtre ont applaudi l'artiste qui a changé la musique brésilienne une dernière fois, rapporte Folha de São Paulo.
Et puis venons-en à présent à l'actualité haïtienne, Romain, avec notre rendez-vous hebdomadaire avec Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence d'information Alter Press.
Oui, Godson Pierre que nous avons joint il y a tout juste une heure. Et après la disparition, les funérailles de João Gilberto, nous allons parler de Michel Hector, décédé vendredi dernier à l'âge de 88 ans également. Historien émérite, Michel Hector, connu aussi dans les années 80 sous le pseudonyme de Jacques Doubou, était un personnage mythique en Haïti.
Tout à fait, et sa disparition provoque beaucoup de réactions au sein de l'université, mais au sein de la société en général. Par exemple, le professeur Hérold Toussaint, vice-recteur à la recherche à l'Université d'État d'Haïti, dit que c'est une disparition terrible pour la société haïtienne parce que le travail de Michel Hector fournissait un éclairage historique d'une grande importance pour le pays. Il y a des anciens étudiants dans les années 80 qui deviennent aujourd'hui professeurs à l'université et qui témoignent aussi. Par exemple, John Picard Biron fait savoir que c'est un chercheur et un professeur d'université généreux, rigoureux, extrêmement aimé de ses étudiants qui part aujourd'hui. C'est aussi un pionnier dans l'institutionnalisation de la recherche à l'université. Michel Hector était originaire du Cap-Haïtien. C'est un site historique extrêmement important en Haïti et la société capoise d'histoire rend hommage à Michel Hector. C'est la même chose au niveau du gouvernement qui souligne que Michel Hector était un historien remarquable et prestigieux. Voilà, Michel Hector, comme vous l'avez dit, Romain, c'est un illustre professeur parti à 88 ans. C'est aussi un résistant qui a lutté sous la dictature des Duvalier. Il était membre du Parti communiste haïtien à l'époque et c'était une époque extrêmement dure pour Haïti.
Autre actualité, Godson, qui fait les gros titres depuis quelques jours en Haïti. Les 6, 7 et 8 juillet marquaient les 1 an des graves émeutes qui ont secoué le pays en 2018 suite à l'augmentation du prix du carburant, une tension qui reste toujours palpable aujourd'hui.
Tout à fait, et la situation socio-économique devient plus précaire, c'est ce que soulignent tout au moins les économistes, et les économistes de tous bords. Le gouvernement a fait peu d'efforts pour améliorer l'état des finances du pays. Aujourd'hui, les recettes sont au plus bas, l'inflation progresse, et au niveau politique, c'est la même chose. Le pays est complètement bloqué. Bloqué devient un mot employé très, très, très souvent en Haïti ces jours-ci. Divorce entre les pouvoirs et la population. Aujourd'hui, des démarches sont en cours selon l'entourage du président pour un replâtrage du gouvernement, alors que depuis 3 mois, c'est pratiquement un vide gouvernemental parce que l'actuel premier ministre et le gouvernement n'ont pas pu avoir l'assentiment du Parlement. Donc 3 mois pratiquement dans cette situation. Le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, appelle au dialogue pour parvenir enfin à la formation d'un nouveau gouvernement. Mais au niveau de la rue, les mouvements continuent un peu épars ce week-end à l'occasion du premier anniversaire des émeutes des 6, 7 et 8 juillet. Mais les appels à la démission du chef de l'État demeure le même, le chef de l'État qui est accusé de corruption. Les pétro-challengers qui sont pratiquement le fer de lance de ce mouvement indiquent qu'en un an, eh bien, la population a repris le contrôle politique du pays et les citoyens, même apolitiques avant, se mêlent maintenant de la politique.
Alors c'est dans cette ambiance qu'a commencé hier le baccalauréat en Haïti. 142 912 élèves précisément vont passer cet examen jusqu'au 12 juillet prochain, c'est bien ça?
Oui, avec beaucoup de difficultés parce que, comme vous le dites si bien, la tension influe sur le déroulement des épreuves. Par exemple, l'insécurité, toujours très difficile de traverser des quartiers sensibles, ce qui, par exemple, au premier jour hier, a causé d'importants retards dans certains centres d'examen, mais aussi des problèmes techniques ou administratifs. Par exemple, des élèves régulièrement inscrits n'ont pas pu obtenir leur fiche d'examen et ceux-là ont bruyamment protesté dans les centres d'examen à Port-au-Prince.
Eh bien, merci beaucoup, Godson Pierre, pour toutes ces informations et rendez-vous la semaine prochaine.
Un plaisir.
Le journal de l'Outre-mer.
Et nous sommes avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Adrien.
Pour parler notamment des algues sargasses, leur prolifération pourrait être bien liée à la déforestation de l'Amazonie.
Oui, c'est en tout cas l'hypothèse émise par des chercheurs de l'Université de Floride. Leurs travaux auraient fait le lien entre les deux phénomènes, déforestation et agriculture intensive au Brésil, et déferlement de sargasses vers l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Colette Borda.
Ils restent prudents, mais d'après leurs premières observations, les rejets de nitrate de l'Amazone pourraient être la cause de ces arrivées massives de sargasses. Et ce nitrate proviendrait des zones déforestées et conquises par l'agriculture. Travaillant sur le phénomène depuis 2009, ces chercheurs se sont ainsi appuyés sur les images capturées par le satellite de la NASA, MODIS, et ont mesuré durant deux ans les teneurs en azote et en phosphore des eaux au milieu de l'Atlantique. Grâce aux chiffres de la consommation d'engrais au Brésil, ils ont dans le même temps vérifié le taux de déforestation et de changement d'usage des sols et analyser la qualité physico-chimique des eaux déchargées dans le fleuve. Il pourrait donc y avoir corrélation entre ces rejets et la production algale. Ces travaux doivent toutefois être menés sur une période plus longue que la décennie passée pour confirmation. Un fait certain pour ces universitaires, quelque chose s'est passé en 2011, année de la prolifération des sargasses dans la Caraïbe. En 2018, un record a été battu avec cette longue ceinture de 8850 km des côtes de l'Afrique de l'Ouest à la Floride, pesant 20 millions de tonnes.
On passe à un tout autre sujet. Le gouvernement qui déclare la guerre au féminicide à partir du 3 septembre prochain sera lancé le Grenelle des violences conjugales. Les violences conjugales, un fléau que l'on ne connaît hélas que trop bien en Outre-mer, que ce soit dans l'océan Indien, dans le Pacifique ou aux Antilles-Guyane, d'où la satisfaction de Georges Arnaud. Elle est membre de l'association martiniquaise Culture Égalité.
Il ne faut pas qu'on se contente de donner quelques subventions aux associations quand elles le réclament. Il y a déjà un point faible dans l'accueil des femmes ici en Martinique. Il y a la question du logement des femmes. C'est-à-dire qu'en Martinique, si une femme est dans une affaire d'urgence, quand elle est et on a besoin de la loger pendant le week-end, il n'y a personne. La deuxième chose, c'est que le SIAO, c'est-à-dire le service d'accueil, d'information et d'orientation qui loge les femmes victimes, ne loge pas seulement les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un logement, un accueil dédié aux femmes victimes de violences. Et là, je crois que ce qu'il faut faire, déjà, il y a le préfet, il y a toutes ces organismes officiels et les associations. Nous sommes prêtes, et Culture Égalité est prête à le faire, et les autres associations militantes qui reçoivent les femmes sont prêtes à rencontrer ces organismes officiels qui mettent en place, qui ont en charge la protection des citoyennes.
Bon après-midi, Adrien,
merci
et à demain.
Merci Benoît, et à demain. Et nous quittons avec la voix et la musique de João Gilberto qui nous a quittés ce week-end.
Vai, minha tri- tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.